Bonjour à tous. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Louis Atangana. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie. Bonjour.
Donc pour une nouvelle rencontre, puisque ça n'est pas la première. Donc cette fois, c'est pour la sortie de ce nouveau roman que j'ai particulièrement adoré. Mais je ne peux pas le cacher, je suis fan depuis la première parution en 2002 de Nulle part, qui était ton premier roman au Rouergue.
Oui, c'est ça.
Donc, 12 ans plus tard, c'est Billy H qui nous est arrivé. Et Billy H, eh bien, je te laisse présenter et le personnage et le projet. Qui est cette petite Billy H?
Alors, cette petite Billy est une jeune noire américaine qui est née à Baltimore et qui a eu une enfance assez difficile compte du fait de l'absence de son père, de l'extrême pauvreté de sa mère. Elle a eu très tôt à devoir se débrouiller toute seule et à faire face à des situations très très dures, je dirais. Et elle a déployé beaucoup de son énergie pour pouvoir affronter la vie qui au départ ne lui souriait pas, j'ai envie de dire. Alors, je tiens à dire quand même que j'ai, à première vue comme ça sur le résumé, ça peut paraître un roman un petit peu plombé, misérabiliste, très sombre, mais ce que j'ai essayé de d'écrire, c'est justement un roman, malgré les conditions difficiles, un roman qui est vif, qui a de l'énergie et même avec de la joie de vivre aussi. J'ai également essayé de, dans l'écriture de l'histoire, de reprendre une manière d'écrire qui sera assez proche d'une composition d'un morceau de jazz. J'ai pris des thèmes essentiels de son enfance, et à partir de ces thèmes assez difficiles, il faut le dire aussi, à écrire, j'ai essayé d'improviser, hein, de développer l'histoire telle que moi je la vois avec mon regard et mon époque aussi.
Donc le personnage de Billy H, en fait, curieusement, ne s'appelle pas Billy au début du roman, c'est Eleanora.
Eleanora, oui, parce que je voulais faire la distinction entre le personnage réel de Billy Holiday qui a existé et ce personnage fictif inspiré au départ de la vie de Billy Holiday.
Donc nous sommes à Baltimore en 1924. Quel âge a Eleanora quand le roman commence?
Elle a 9 ans. Très exactement. Elle est née en 1915. Son père avait 16 ans et sa mère en avait 17, voilà, à peu près.
Donc elle est née en 15, ce qui veut dire que son père, d'ailleurs, tu en parles dans le roman, son père a connu un des événements qui a marqué la grande histoire. Il est parti...
Il s'est engagé dans l'armée américaine pour aller combattre en Europe et notamment en France en 1917. C'est-à-dire qu'il devait avoir 17 ans, ou 17 ans, à peine 18 ans. Il a été donc gazé, donc il a eu une carte d'invalidité d'ancien combattant toute sa vie. Mais ce qu'il y a d'important pour lui, ce moment marque l'instant où il refuse sa condition de noir vivant dans la ségrégation. Donc il refuse d'avoir un travail comme tout le monde et il a appris la guitare et il décide de devenir musicien pour être plus libre, pour vivre la nuit. C'est-à-dire la nuit, il faut savoir que dans ces années-là, les codes de la ségrégation s'effaçaient un petit peu. Hein, lorsqu'on était noir, on pouvait avoir une vie un peu plus libre aux États-Unis, et notamment à New York, puisque très tôt il est reparti à New York pour être guitariste dans un orchestre d'une boîte de jazz à New York. Et il a abandonné donc sa femme, Sadie, la mère de Billy, et sa fille.
Donc le thème de la liberté, on va y revenir par la suite, c'est un thème extrêmement important. C'est ce qui va jeter, entre guillemets, la petite Billy aussi dans à la fois la quête de son père et la quête de cette liberté, puisqu'à l'école, c'est plutôt difficile pour elle.
Oui, elle l'accepte très tôt, elle n'accepte pas les règles de conduite, elle est en rébellion, aussi bien contre une partie de sa famille, sa cousine notamment, Ida, très vite contre sa mère aussi. Donc très tôt, elle a été attirée. C'est vrai qu'elle était souvent livrée à elle-même parce que sa mère travaillait très tôt le matin et rentrait très tard le soir. Très vite, elle a été livrée à elle-même.
Elle mène aussi la vie dure à son institutrice. C'est un petit peu comme ça que le roman commence. Très vite, on est dans le portrait d'une petite fille non seulement espiègle, un peu garçon manqué, assez bagarreuse, qui fait de la boxe, qui n'est pas vraiment dans les codes féminins de son époque, on va dire, et qui en même temps s'oppose à l'autorité à l'école. Il y a quelque chose qui m'a frappée dès le début dans les dialogues, c'est l'utilisation des références à la religion.
Oui.
Donc qui sont comme une damnation annoncée pour ceux qui résistent à l'autorité, comme si déjà toute petite, elle allait être condamnée presque à l'enfer parce qu'elle est pas sage.
Oui, il y a ce jeu-là sur l'importance de la religion dans la mentalité américaine de l'époque. Donc celui qui n'est pas dans le droit chemin, forcément, il finit mal. Et je crois que toute sa vie, elle a eu des démêlés avec la justice. Parce qu'aussi elle est en rébellion et parce qu'elle sortait de sa condition, de la condition dans laquelle on l'avait mise, condition de femme, condition de noire. Donc dès qu'elle a gagné un petit peu d'argent, on a essayé de lui causer des problèmes. Elle a eu aussi à aider sa mère tout le temps. Sa mère qui ne voulait pas travailler, qui voulait aussi sortir d'une certaine manière, sortir de sa condition et qui a tenu toute sa vie à monter un restaurant. Et chaque fois,
c'est le rêve d'une vie un peu...
Une vie différente, un peu... Enfin, meilleure que celle qu'elle avait, hein, puisque, bon, une femme noire, dans les années 20, c'était finalement domestique. On n'était pas très loin de l'esclavage plus. Et donc, il n'y avait pas autre chose, à part être domestique ou travailler dans les champs.
Donc, c'est une vie qui commence un peu marquée aussi par l'injustice, puisque sa mère va perdre son travail d'une façon... Très injuste, c'est une scène assez marquante.
Oui, puisque sa patronne, alors ça c'est moi qui l'ai un peu inventé, mais elle a perdu son travail aussi parce qu'elle avait une enfant et qu'elle n'avait pas d'homme, de mari. Donc c'était la religion puritaine, hein, c'est quand même une certaine religion puritaine aux États-Unis, surtout à cette époque-là. Elle a été renvoyée parce que c'était une femme de mauvaise vie, au point de vue de la morale. Et je voulais ajouter autre chose, oui, sur la condition, mais je le dirai tout à l'heure.
Donc ça, c'est cette scène-là, justement, c'est la scène où cette femme blanche renvoie Sadie, la mère de Billy ou d'Eleanora, parce qu'elle-même n'a pas d'enfant, et donc par jalousie aussi. C'est une scène complètement fictive. Alors, comment tu mêles, justement, le côté biographique, puisque Billy, c'est un personnage réel, et la fiction dans ton roman. Comment tu as tricoté les deux ?
J'ai tricoté les deux parce qu'il me semblait que c'était évident pour moi que j'avais des passages obligés sur les grands accidents de la vie de Billy Holiday. À partir de ces moments-là, j'ai inventé tout en mettant dans le récit le regard que moi je porte sur les États-Unis de cette époque, c'est-à-dire une société complètement dans la violence et le rapport de force, une société pour laquelle le temps de l'esclavage n'est pas si loin que ça. D'où le mot, j'ai tenu à écrire le premier mot qui a l'air naïf et la première phrase naïve et innocente. Mais c'était important pour moi de parler de la maîtresse. La maîtresse, dans une société qui a été esclavagiste, ce n'est pas innocent. C'est aussi le rapport de force.
Bien sûr.
Et la phrase était à la forme négative. Donc là, on a déjà le rapport de force, entre ce personnage d'Eleonora et l'autorité et l'école et la justice, par exemple.
Donc cette première phrase, c'est « La maîtresse, Miss Jackson, n'aimait pas Eleonora. Elle lui avait dit dès le début de l'année. « Toi, ma fille, tu m'as tout l'air d'être arrogante et insolente. Tu ferais mieux d'arrêter de me regarder avec ces yeux de petite diablesse. Tu vois, je savais que c'était toi serais plus à l'aise pour le lire. Oui, avec ses yeux de petite diablesse. Donc déjà, il y a effectivement ce rapport entre elles deux qui est un rapport de conflit.
Un rapport de force. Et la répétition aussi qui introduit le thème du blues. Souvent dans le blues, on répète deux fois la même. Hein. Donc voilà.
Voilà, donc c'est une écriture que tu as travaillée en écoutant Billie Holiday, qui te nourrit, je crois, depuis longtemps.
Depuis l'âge de 8 ans, depuis que j'ai vu le film qui a été tourné sur sa vie d'adulte, joué par Diana Ross, Lady Sings the Blues. Donc je connais Billie Holiday depuis l'âge de 8 ans et je l'écoute régulièrement.
Oui, c'est un film que tu as vu à cet âge-là.
Oui, à cet âge-là. Bon, je suis le dernier d'une famille de six enfants, donc j'ai des grandes sœurs qui aimaient Billie Holiday, donc elles m'ont fait connaître cette chanteuse. Lorsque j'étais très jeune.
Donc tu as écrit aussi, tu disais, comme un compositeur, en écoutant la musique et en écoutant la voix de Billie Holiday. Quel travail ça demande finalement pour arriver à rendre cette phrase à la fois jazzy et aussi à rendre l'accent de tes personnages, donc le parler afro-américain de l'époque, avec ses élisions, ses mots
Tout d'abord, bon, je me suis inspiré des auteurs du Sud ou noirs américains qui écrivent avec qui ont un langage parlé.
Et lesquels, par
exemple ? Je pense à Gaines, publié chez Liana Levy. Je pense bien sûr au grand classique Black Boy, bien sûr, de Richard Wright. Je pense à Faulkner aussi, qui a beaucoup écrit avec des personnages noirs. Je pense bien sûr énormément à un auteur que j'ai beaucoup lu quand j'avais 20 ans, à Chester Himes. Oui, ça se passe à Harlem, ces histoires policières. Donc voilà. Ensuite, je travaille beaucoup sur les rythmes. Je compte les syllabes. La ponctuation a une grande importance, notamment le point, qui permet de briser la syntaxe plus classique. Alors, j'écris il y a des moments où j'ai des phrases de nominal très courtes, très elliptiques, justement. C'est proche de certaines improvisations de jazz. Et puis, il y a des moments aussi, quand on arrive dans le quartier de la musique, on va dire, en gros, de Felpont. C'est plus lyrique, la phrase se fait plus longue, me semble-t-il, plus poétique aussi, avec beaucoup de métaphores. Il faut que j'entende, lorsque j'écris un texte, il faut que je l'entende. Il faut que j'ai l'impression quasiment que j'écris une partition.
Je suis en train de chercher le passage qui me semblait avoir noté ce matin. Voilà, ce passage-là, peut-être.
Oui.
Donc, c'est un passage où Eleonora découvre le monde de la rue, et notamment Fells Point, donc un quartier très vivant où plein de choses se passent, donc elle découvre un monde qui lui était encore étranger il y a peu.
Fells Point. C'était des femmes vêtues de robes gueulardes, des rires colorés, des cris de joie, des hommes aux costumes flamboyants, aux chapeaux portés avec l'insolence et la fierté des mauvais garçons. C'était aussi des traînes savates, des loqueteux aux épaules brisées, des alcooliques en fin de course, des camés cotonneux, des illuminés aux yeux de fée. Tous semblaient emportés par les mêmes rythmes, des mélodies drainant avec elles, des histoires immenses puisées au plus profond de l'humanité, naviguant entre espoir et désespoir, euphorie et bourdon, des images floues des anciens temps de l'esclavage et de l'Afrique. Cette ambiance. Et Léonora croqua immédiatement dans ce fruit défendu, grisé par la danse des mots et des notes, enlacé entre des amoureux, enlacé comme des amoureux, se séparant tantôt pour mieux se retrouver. Oh là là, quelle merveille d'écouter cette musique qui jaillissait à l'improviste, tournait en l'air et semblait l'enluminer selon l'inspiration des musiciens. Elle avait l'impression de pouvoir toucher les notes et Léonora, de les caresser tant elles étaient proches. Des fois, elle paraissait emplir le ciel tout entier d'aubes nouvelles, ouvrant des horizons inouïs et saturés d'étincelles folles, multicolores, le jazz, le temps vacillé comme un cœur affolé, amoureux. En quelques secondes, toute une vie semblait se brûler dans la lumière et le rythme de la musique. Voilà.
Merci. C'est un passage que je trouve magnifique, entre autres. Merci. Et tu me disais tout à l'heure que tu avais voulu écrire aussi comme si on lisait un texte traduit d'un auteur américain.
Oui.
Ce qui m'a étonnée, tu n'as pas honte d'être français et d'écrire en français.
Non, pas du tout, mais c'est un peu ironique comme
oui,
ça.
Quoi. Oui. Hein,
Non, j'aime m'écrire en français, je ne sais qu'écrire qu'en français, enfin, le peu que je sais écrire. Voilà, c'est ma langue et j'en suis fier. Ouais.
Mais c'était pour coller, une fois de plus, j'imagine, à ton
pour
sujet.
Pour coller à la réalité, voilà. Au jazz, à cette époque-là, à la manière dont les personnes parlaient. Ce qui me plaît dans l'écriture, je crois, de romans, c'est raconter des histoires qui me tiennent à cœur et de la manière dont j'ai envie, qui me plaît. Mmh. C'est la liberté, c'est un bonheur absolu de pouvoir s'approcher de ça, en tout cas. Même si ce n'est pas toujours le facile, mais lorsqu'on s'approche de ce projet-là, écrire sur un sujet qu'on a choisi, et trouver un ton, une écriture, une liberté finalement, c'est merveilleux pour moi, en tout cas.
Pour chacun des romans, effectivement, il y a une tonalité particulière. Donc, pour dans la voiture de Johnny, par exemple, on est sur un espèce de rythme effréné parce que le personnage vit une espèce de course-poursuite qui l'étouffe et l'oppresse et dont on attend la fin, l'épilogue avec impatience parce que il y a énormément de rebondissements, mais là, c'est sur le mode humoristique,
oui.
D'un bout à l'autre.
Oui.
Et ça ne baisse jamais. Il y a une espèce de rythme fou et drôle du début à la fin. Dans Ma, c'était tout à fait une autre ambiance.
Oui, plus douce, plus lente.
Mmh. Et dans Une étoile dans le cœur, c'était aussi...
assez coup de poing,
ouais,
avec des phrases très courtes.
Exactement.
Un langage dit un peu plus de banlieue, imagé, plus violent, hein, je veux dire, avec un ton agressif aussi, sur le mode de le ton de la colère plutôt.
Oui, parce que pour tu peux peut-être rappeler en deux mots un petit peu le sujet de.
Alors le sujet, c'est
personnage.
J'ai abordé le thème de l'identité. C'est un personnage comme on en trouve beaucoup de nos jours, qui est métisse. Mais il le sait déjà, mais il va se rendre compte que, avec plus d'acuité, que sa mère est juive, donc il est juif lui aussi. Donc il vit dans une cité assez dure où il y a un antisémitisme larvé, mais bien présent. Et il va décider finalement de reconquérir toutes ses identités, de s'affirmer en tant que métis et juif. Il va lutter finalement pour rester debout et pour avoir une certaine liberté, pour avancer dans sa vie, pour effacer la douleur d'avoir perdu son père qui est parti, qui a quitté la maison et le domicile. Et c'est un roman, oui, sur le courage d'être soi, sur le courage de se surpasser, d'aller voir aussi ailleurs comment est-ce que dans des quartiers différents, de cultures différentes, ce qu'on vit. C'est aussi un roman sur la découverte des autres, grâce à la littérature aussi, à la peinture, à la musique, par exemple.
Donc finalement, à t'entendre, mais bon, j'en étais déjà convaincue avant, il y a pas mal de points communs entre Une étoile dans le cœur, ou même avec d'autres romans, et Billy H, puisque Billy H, c'est aussi une histoire de courage, une histoire de quête de soi. Et Billy, elle est à la recherche de son père aussi, dont elle a bien besoin pour grandir. Donc ça va être une espèce de quête, pas tout à fait vaine, mais presque. Et puis ce désir de liberté et de faire quelque chose de sa vie, même si on a été malmené plus que de raison, parce qu'elle est
Oui, je crois
très
que
malmenée.
Si on pouvait trouver des points communs à tous mes romans, c'est un des points communs. Voilà. Sans doute que je suis un peu comme ça aussi. Donc forcément, j'ai un univers particulier, même si j'essaie de changer de thème et d'écriture, et j'ai quand même
un fil rouge.
J'ai un fil rouge, un paysage mental, un imaginaire auquel je ne peux pas échapper de toute façon. Personne, hein, je pense. Que... Donc voilà.
Donc c'est un peu la prison dans la liberté, quelque part.
Oui, on est comme on est. On est d'une époque, on a un parcours de vie. On a une culture, des accidents, des bonheurs, et on n'échappe pas à soi-même. Mais on peut essayer de faire de sa vie quelque chose toujours de mieux, hein, de progresser. Je pense que la notion de progresser ou de se dépasser, de surmonter, pour arriver à un certain bonheur. Oui, un certain bonheur dans la simplicité, je pense que... Et puis, il faut apprendre à être fort dans la vie. Alors ça, c'est mes mauvaises lectures de Nietzsche aussi. Je ne les ai pas toutes bien compris, mais c'est ce que je retiens aussi. Savoir être libre en luttant contre soi-même pour se dépasser systématiquement.
Donc Billy, elle, donc on a dit une mère présente absente parce que sa mère l'élève, mais femme de mauvaise vie, qui va quand même entraîner sa fille vers la prostitution. Donc lors de l'installation à New York, Billy va se retrouver dans une maison donc tenue par une certaine Florence. Elle pense y être accueillie, et puis là c'est quand même... J'allais dire la douche froide, c'est pas très approprié, mais elle comprend que sa mère la donne à cette femme pour qu'elle la vende aux hommes. Donc elle...
Oui, sa mère, là, c'est impossible. Enfin, bon, elle a toujours voulu faire croire, et Billy aussi, parce que c'est sa mère, elle a essayé de la protéger aussi toute sa vie. Mais sa mère l'a volontairement vendue à Florence, cette tenancière de maison de plaisir. Et donc, elle devait avoir 14-15 ans.
Donc c'est une jeune fille très belle, très sensuelle aussi, certainement.
Oui, très sensuelle, très belle. Un côté sans doute garçon manqué, mais en même temps très féminine. Donc on remarque très tôt pour sa beauté. Et donc, bon, lorsqu'on n'a pas de travail, qu'il y a du chômage dans les années 20, il y a la grande crise, etc., bien, pour beaucoup de femmes, hélas, ça a été la prostitution.
Voilà, la solution, c'est donc une vie émaillée de ces difficultés qu'on a du mal même à imaginer aujourd'hui. Mais en revanche, elle découvre New York, et à New York, il y a les clubs de jazz.
Et à New York, il y a les clubs de jazz. Et à New York, elle sait qu'il y a son père, puisqu'elle le recherche aussi. Donc, elle va essayer de chanter, se faire engager. Ce n'est pas facile à l'époque, puisqu'on est en pleine crise de 29. Beaucoup d'actrices n'ont pas de travail, de chanteuses aussi. ou de simple emploi de serveuse, par exemple. Et là, c'est là où elle va montrer à nouveau cette force qu'elle a épuisée, qu'elle puisse chaque fois au fond d'elle pour trouver un travail qu'elle estime digne, parce que, bon, bien qu'elle ait fait quelques ménages lorsqu'elle était enfant, elle refuse d'avoir la même vie que sa mère, c'est-à-dire d'être boniche chez les Blancs. Elle ne veut pas de cette vie-là. En ce sens, elle suit un peu son père, qui lui aussi, une fois qu'il revient de la guerre et qu'il a connu autre chose en France, c'est-à-dire l'absence totale de ségrégation, hein, ça a été pour beaucoup de
C'est une
Noirs américains,
révélation.
ça a été une grande révélation, hein, lorsqu'ils sont venus en France et en Europe. Pas de ségrégation, ils pouvaient marcher de n'importe quel côté du trottoir, ils pouvaient rentrer dans des cafés, n'importe lesquels. Ça a été la connaissance de la liberté. Hein. Vous pouvez côtoyer, je parle des musiciens de jazz, et vous pouvez côtoyer des femmes françaises sans risquer d'être lynchées. Donc ça change, c'est ce qui a fait un peu exploser la famille de Billie Holiday, mais c'est ce qui lui a permis aussi d'avancer et de se positionner un peu comme une rebelle. Je pense qu'elle a été rebelle toute sa vie.
Oui, on a le sentiment que toute petite déjà,
Toute petite,
ouais.
hein,
Façon de survivre.
et dans les documents qu'on lit, le peu qu'on a sur son enfance, c'est ce qui ressort. Le refus de baisser la tête, de dire merci. Elle préférait
Oui.
se faire frapper très très violemment, mais regarder les gens qu'elle n'avait pas le droit de regarder dans les yeux, les regarder dans les yeux, et ne surtout pas dire merci. Pour elle, c'était une manière de résister inconsciemment, sans doute parce qu'elle était jeune, pour faire une grande analyse sur son
Oui, puis pas très
refus de dire,
éduqué,
et pas
donc.
très éduqué, son refus de dire merci, mais c'était sans doute. Elle l'a senti comme ça, en tout cas. Premier acte de rébellion et d'affirmation de soi, on ne dit merci à personne.
Cette scène aussi au début du roman où elle s'oppose à son institutrice, à sa maîtresse, en parlant de son père d'une façon singulière qui va la faire punir, c'est une scène inventée ou que tu as trouvée dans sa biographie?
Non, c'est une scène inventée.
C'est une très jolie scène, si tu peux en parler un peu ou lire l'extrait comme tu veux. C'est une scène donc où la maîtresse demande aux élèves de parler de leur père, de raconter qui est leur père. Et donc, Eleanora va faire. D'abord, elle n'a pas envie de le faire, et puis elle va faire sa propre description.
Pourtant, cet après-midi de février 1924, la vie d'Eleonora sembla se compliquer. C'était un banal jour d'hiver. Le froid broyait Baltimore dans ses mains de glace. Le vent sifflait, mordant vaguement la ville. Les rues étaient presque désertes. Eleonora rêvait, à sa place, bercée par la voix chantante de la maîtresse. Le cours de grammaire anglaise était une chanson douce, une invitation à la rêverie. Le poêle, au fond de la classe, soupirait nonchalamment. Ça ronronnait tranquillement. Soudain, tout se détraqua à cause de cet exercice que Miss Jackson piocha au fond de sa petite tête aux cheveux sévèrement défrisés. Mais bon sang, décrire son père, devant toute la classe en plus, chacun à son tour. Qu'est-ce que ça pouvait lui foutre à la maîtresse, la tronche qu'il se payait, son père? On lui en posait des questions, elle, sur le minois de son vieux. La maîtresse avait ordonné, fallait obéir, c'était la règle. Tout le monde s'exécuta, exagérant les qualités de son paternel. Même Jimmy, dont tout le monde savait que son pas lui foutait des raclées après s'être envoyé une bouteille de gin dans le gosier. Pas grave, c'était un exercice pour apprendre à s'exprimer avec de belles phrases, un beau vocabulaire. Eleonora se leva lentement lorsqu'à son tour arriva. Le regard de Miss Jackson la transperçait. Une volée de secondes passa. La classe retenait son souffle, nerveuse. Eleonora prit une voix de chipie mal élevée. Papa, il a une grosse tête, deux bras, deux jambes, deux noix chaudes et un seul éclat de rire. La maîtresse, la baguette dressée vers le ciel, fondue sur la diablesse. Les coups sifflèrent. Miss Jackson frappait de bon cœur. D'où Jésus ? Est-il possible qu'une enfant soit aussi tordue ? Malgré son visage d'ange, sûr que cette fille était le démon, les coups de la baguette continuèrent longtemps pour vaincre le mal. Je crois
que je peux arrêter là. Oui. Donc le mal habite cette petite fille qui ne va pas rester très très longtemps à l'école. Donc tout au long du roman, même si on est... Donc au plus près de sa biographie, donc avec, comme on disait tout à l'heure, des parties inventées de ta part et des parties vraiment réelles, enfin de la vie de Billie Holiday. Il y a aussi, alors tu t'arrêtes en fait dans ce roman au moment où, sans dévoiler la fin, c'est pas toute la vie de Billie Holiday. Tu as voulu faire, c'est un texte court d'une part, donc ça n'aurait pas suffi. Et puis, on s'arrête au moment où sa vie va basculer, c'est au moment où elle va signer son premier disque. Donc c'est avant la célébrité. C'est
bien comme, avant la célébrité.
Bien avant la célébrité, oui, parce que le premier disque ne fera pas forcément sa gloire tout de suite non plus. Donc au moment où on a ce personnage en devenir, donc c'est une vie... On l'a dit et répété, où elle a déjà souffert, où elle a surmonté toute cette part sombre de son existence. Et donc, c'est une vie que tu veux montrer pleine d'énergie, parce que c'est le cas, oui. Mais aussi qui est émaillée de petites allusions à ce que sera sa vie d'adulte, qui est une vie ponctuée de tragédies et de moments extrêmement difficiles, comme si ce mal qui était à l'œuvre là, sous les coups de la maîtresse au début, il allait s'infiltrer presque dans son sang pour l'accompagner jusqu'au bout.
Oui, oui, elle est absolument. Elle lutte pour trouver le bonheur, pour se sortir de ses rapports conflictuels, pour trouver sa liberté et finalement. On a l'impression que là, une certaine réalité qui la rattrape chaque fois. C'est un peu le malheur de tous ces musiciens aussi de jazz qui avaient le bonheur de jouer, d'enregistrer, de voyager aussi pour les plus célèbres. Mais dans leur propre pays, ils se sentaient quand même prisonniers. D'où beaucoup de... Tous ces musiciens qui se sont détruits, hein, je pense à Coltrane, je pense à Thelonious Monk, je pense à même Miles Davis, tous ce sont Charlie Parker évidemment. Il y avait cette douleur en eux de sentir que même s'ils jouaient de la musique, ils s'épanouissaient, il y avait une société qui les diminuait.
Oui, qui ne les reconnaissait pas complètement.
Qui ne les reconnaissait pas, qui se rappelait à eux. Et je crois que c'est une des tragédies de Billie Holiday, sans dévoiler l'histoire, c'est qu'il y a cette réalité de la société américaine blanche et puritaine, et au travers de la police notamment, qui va se rappeler à elle systématiquement.
Donc c'est un roman qui est alors forcément jazzy dans l'écriture, on l'a vu, qui est aussi très sensuel quand Billie Holiday, quand tu l'as décrit, en train d'essayer sa voix sur les autres, en train de chanter publiquement, même si ce n'est pas forcément des concerts officiels au début. Ce sont des passages aussi magnifiques, très très forts, où les phrases sont syncopées. J'aimerais bien que tu nous lises un petit passage aussi, parce que je trouve que tu lis très bien, j'en profite. Je trouve que si, ça rend très bien le passage où elle force un petit peu la main dans un bar à l'orchestre. Donc elle y va un soir, elle a peut-être un peu bu d'ailleurs, elle est fatiguée. Elle a eu sa journée aussi dans la maison de passe donc de Madame Florence. Et là, elle s'échappe le soir dans un club de jazz. Elle y va comme spectatrice et puis l'envie la prend de chanter, de montrer ce qu'elle sait faire. Donc elle n'est pas Billie Holiday, elle n'est pas connue. C'est une petite jeune fille.
Comme il y en avait de nombreuses, on est en pleine crise. Donc il n'y a pas de travail. Il faut trouver quelque chose à faire pour gagner un dollar, même pas, et pouvoir manger.
Ouais.
Donc je prends page...
Tu veux ou... Juste au moment où elle va avec l'orchestre, peut-être, ou elle obtient gain de cause.
D'accord.
Ou avant, comme tu veux. Si le...
Alors Jeff écrasa sa cigarette, termina son verre. C'était le moment de la reprise. 3 ou 4 heures à exécuter et puis ce serait terminé. Repos pour tout le monde. Les musiciens étaient remontés sur la scène. Je te laisse 1 minute et après tu vires. Elle le suivit en piste. Alors, Miss Holiday, qu'est-ce que tu veux chanter? How I am to know. En quelle tonalité? Contentez-vous de me suivre, les gars. Cette petite est à moitié dingue, pensa Jeff. Chanson. Dès les premières paroles, il se passa quelque chose dans la salle, comme une vibration agréable, douce et chaude. Un couple qui s'apprêtait à partir s'arrêta et se retourna pour voir qui chantait avec cette voix. Une voix, un souffle sensuel, nonchalant et cabotin, entre caresses et taquinerie, joie et mélancolie. Les musiciens se jetaient des coups d'œil. Pas de doute, cette gamine, elle avait de l'âme dans la voix, quelque chose dans le ventre. La chanson terminée, Eleonora se tourna vers l'orchestre et se contenta d'annoncer « Honey Shuckle Rose ». L'orchestre envoya les premières notes. La voix envoûtante d'Eleonora s'envola à nouveau. Les serveurs s'étaient arrêtés de bosser. On ne pouvait pas manquer cet instant d'émotion. Cette gosse avait des intonations qui prenaient aux tripes, réveillaient des nostalgies oubliées, dévoilaient des espoirs enfouis. Elle jouait avec la musique comme une gamine avec un ballon ou un petit chaton. Seigneur, tant de beauté, de grâce et d'élégance. Pourquoi tu m'en as pas laissé un peu, marmonna une femme.
C'est un très très joli passage aussi. Donc on est dans ces ambiances de bar un peu enfumées où les gens se retrouvent. Comment tu t'es documentée sur cette période? Est-ce que c'est une période que tu connaissais bien ou...
C'est une période que je connaissais un peu à travers les auteurs américains que j'ai pu lire. Hein. Bon, je ne vais pas tous les citer. Et puis quelques films aussi, des documentaires... Et puis j'ai eu des photos aussi sur Baltimore et New York à l'époque. Donc voilà. Après, il faut faire le travail d'imagination. C'est ce qui m'intéresse aussi avant tout. Hein. Finalement, je crois que j'ai fait avec mes souvenirs ou l'image que j'ai des États-Unis à cette époque-là. Et voilà, je suis parti de là. J'ai essayé d'avancer dans cette histoire, de me mettre à la place... autant que pouvait se faire de Billie Holiday, c'est-à-dire d'une gamine de cet âge-là, comment est-ce qu'elle vit les réalités assez cruelles qu'elle traverse. C'est tout ce qui fait la dureté d'écrire et la joie d'écrire.
Et est-ce qu'avant de... Donc Billie Holiday, elle t'accompagne depuis très longtemps, tu disais, mais est-ce qu'avant de te mettre à écrire ce livre-là, tu avais lu des biographies? Ou est-ce que c'est venu pendant le travail d'écriture ou avant?
Non, je ne connaissais de Billie Holiday que sa vie d'adulte, c'est-à-dire les derniers moments de sa vie d'adulte, et notamment le film Lady Sings the Blues, de jouer avec Diana Ross dans le rôle de Billie Holiday. Sinon, je ne connaissais rien. Et lorsque j'ai commencé mes premiers brouillons, j'avais une biographie chez Folio, pour ne pas citer, et je lisais au fur et à mesure, Et j'inventais. Si bien que de cette biographie que j'ai lue en entier, mais évidemment, mais je ne me suis servi que des, pour être exact, des 20 premières pages sur 200, 300
Oui,
pages.
sur l'enfance, vraiment,
L'enfance, on n'en
la
parle pas beaucoup, donc j'ai inventé. Et parfois, lorsque j'avais envie d'inventer, par exemple, sa relation merveilleuse, son amitié merveilleuse avec Lester Young, son saxophoniste, hein, à un moment donné, j'ai inventé le personnage d'Elliot.
D'accord, c'est en référence
C'est en
à
référence à
Lester Young.
l'amitié
D'accord.
avec Lester Young, par exemple. Et autre chose aussi, voilà. Il y a le personnage, après je m'amuse toujours, c'est un défaut de prof de lettres. C'est-à-dire
Avec des
que
références cachées.
voilà, avec des références cachées, notamment la rencontre dans le magasin de musique avec Buck, qui pourrait faire fortement penser à un auteur qui s'appelle Charles Bukowski, assez révolté, lui aussi, assez anarchiste. Voilà.
Et alors pourquoi Bukowski? Tu nous éclaires sur la référence parce que moi je la vois pas.
Moi, j'y vois un personnage qui n'aime pas l'ordre établi.
D'accord.
Donc, d'où son intérêt pour Eliot. Il n'aime pas la société américaine telle qu'elle est, dans laquelle il vit.
D'accord. Donc Elliot, c'est un garçon qu'elle va rencontrer dans la rue, avec qui elle va faire un petit peu le coup de poing. Enfin, contre qui d'ailleurs?
Oui.
Ça commence un peu par une échauffourée et puis ça finit plutôt en amitié. Et c'est un jeune saxophoniste qui travaille son saxophone un peu en secret.
Oui. Et lorsqu'il vient dans le magasin de musique de ce personnage qui tient un magasin de musique, qui s'appelle Buck.
Donc, oui, tu es professeur de français, tu viens de le dire.
Oui.
Comment tu perçois les adolescents et la lecture aujourd'hui?
C'est très divers. Alors, on a des adolescents qui ne sont pas du tout entrés dans l'univers de l'écrit et de la lecture, qui ne voient finalement dans la lecture qu'un travail, et qui paradoxalement, lorsqu'on leur met un texte, pas les miens, hein, je ne me permettrai pas, mais un texte dans lequel, par exemple, on a des personnages plus contemporains, plus actuels, plus vivants, qui utilisent des gros mots, par exemple, aussi, ils sont choqués. Parce
Oui,
que la
c'est vrai.
littérature, c'est un monument. Ils pensent à Molière, et bon, ils ont du mal à comprendre, mais c'est Molière. Et puis on ne sort pas de là, de ce cadre, de ce classicisme finalement, qui, c'est le musée, c'est très bien. Après, on a des élèves lecteurs, qui sont grands dévoreurs de livres. Une part d'entre eux sont quand même des grands lecteurs, d'heroic fantasy. Et on trouve peu, je crois. En ce moment, peu de lecteurs des genres différents. On a des lecteurs de manga aussi. Mais après, lorsqu'on leur donne des livres plus réalistes, ils arrivent, ils prennent un certain plaisir, pour certains.
Quel conseil de lecture tu donnerais, tout genre confondu, pour des, on va dire, 13, 16 ans, collégiens, début lycée? Est-ce qu'il y a des incontournables, des succès
Il y a des romans qui sont beaux quand même, qui peuvent toucher des lecteurs adolescents. Je pense, bon, je vais me répéter, j'étais là bon, au club de lecture, mais Laurent Godet, c'est magnifique. Que ce soit Cri, que ce soit La mort du roi de Sangor, Eldorado. On a des romans jeunesse comme bon, Les larmes de l'assassin d'Anne-Laure Bondoux. C'est un beau roman. J'aime bien les romans de Guillaume Guéraud, qui sont aussi assez vifs, assez dynamiques, hein, un petit peu
Percutant,
percutants, provocateurs des fois.
oui, aussi.
Bon, là, je n'aime pas les listes, donc de manière abrupte, comme ça, je vais avoir
Oui,
du.
c'était bien sûr. Et tu étais quel type de lecteur quand tu avais leur âge?
Un grand lecteur.
Boulimique,
Boulimique, oui.
déjà?
J'ai d'abord parce que j'ai eu une enfance jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Je vivais au Cameroun, il n'y avait pas la télévision. Donc on était lecteur. On était inscrit à la bibliothèque et c'était un luxe. C'était considéré comme un luxe de pouvoir être inscrit dans une bibliothèque et de pouvoir lire. Et donc j'ai continué. Ça fait partie de ma vie, hein. J'ai eu des moments lorsque je suis arrivé en France où j'étais un peu perdu et je n'étais pas un bon élève pendant très longtemps, même un très mauvais élève. J'étais plus proche de Billy. Mais il y
Rivalité.
avait toujours la lecture. Hein, je pouvais être très mal classé en cours, mais à 13 ans, je lisais. Je comprenais pas tout hein, non plus, mais je lisais Zola, j'avais une passion pour Zola, pour Maupassant, pour bien d'autres auteurs. Hein, ça a toujours été important pour moi de lire. Même si on ne comprend pas tous les livres qu'on lit. Hein, puis, voilà.
L'essentiel, c'est d'être touché.
Oui, je crois que l'essentiel, c'est d'être touché. Puis un livre, ça peut se relire parfois. On a un regard qui se transforme selon les moments de la vie. Oui, c'est l'époque, oui, 13 ans. J'ai, bon, bien sûr, le journal d'Anne Frank. Je lisais tout ce que je trouvais, tout ce que je pouvais trouver. J'étais inscrit à la bibliothèque, bien sûr. Et puis voilà. Et puis lorsque je me suis remis au travail très tard, j'ai choisi de faire des études de lettres pour essayer de mieux comprendre la littérature. Et après, j'ai découvert les élèves. Et là aussi, c'était, à ma grande surprise, ça a été une très bonne surprise. Et ça le reste, hein, même si tous les jours, ce n'est pas facile.
Et être écrivain pour toi, ça s'est décidé, c'est venu comment le premier roman, qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas?
Oui, je me souviens très bien du premier roman qui m'a fait franchir le pas. Mais j'ai commencé par écrire de la poésie. Alors, Saint-Jean-de-Perse, René Char, par exemple, Rimbaud, évidemment. Une saison en enfer, c'est capital pour moi. M'ont donné envie d'écrire. Mais le livre qui m'a. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il est psychanalyse et qu'il a touché quelque chose d'inconscient chez moi, mais c'est un livre d'Henri Beauchaud. Il s'appelle Antigone. Et c'est un livre magnifique, franchement magnifique, à partir du personnage d'Antigone qu'on connaît par Anouilh et Sophocle par ailleurs. Mais c'est un roman vraiment très très beau. Et j'ai eu envie d'écrire, c'était au moment de la guerre au Rwanda. J'ai voulu envie d'écrire un roman tragique qui se passera en Afrique. C'est mon premier manuscrit, que je n'ai pas repris depuis, mais. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie. Et puis j'ai pris goût, j'ai découvert qu'il se passait quelque chose de merveilleux lorsqu'on écrivait. Il y a des fois des personnages qui s'imposent presque par eux-mêmes, qui m'échappent. Hein, j'ai prévu d'aller dans telle direction, et puis la logique du personnage fait que je vais dans une autre direction. Il y a quelque chose d'absolument merveilleux auquel je n'aurais pas cru si je n'avais pas eu cette expérience d'écriture-là avant. Hein, oui, voilà, c'est magique, quoi. Il y a un côté de totalement magique.
Merci beaucoup, Louis, pour cette rencontre généreuse, je dirais, ta disponibilité.